Françoise Dilly, membre du conseil d'administration de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la demi-heure mensuelle de l'émission de notre association Église ouverte. Le thème de ce jour, la prochaine sortie annuelle de l'association qui aura lieu le 17 septembre prochain. Les habitués le savent bien, ces visites annuelles sont en majorité commentées par le président de l'association, Charles Jobert, érudit en matière d'art et de culture religieuse et grand connaisseur des différents sites religieux du département. Précisément, ce jour, c'est Charles Jobert qui va animer cette demi-heure pour vous. Bonjour Charles.
Bonjour.
Avant d'aborder le parcours des différentes églises de cette sortie promenade du 17 septembre, peut-être est-il bon de rappeler aux auditeurs qu'en général, nos sorties annuelles s'inscrivent dans le prolongement du thème de la réunion informative de l'Assemblée générale. Cette année, l'intervenante Estelle Vincent, professeure d'art, est venue parler d'une exposition d'art contemporain. Nos auditeurs peuvent s'interroger sur le lien entre la visite des églises du Timbré prévues et l'exposition. Charles ?
Bien, alors en effet, Madame Estelle Vincent était venue nous présenter à l'occasion de notre Assemblée Générale cette manifestation qu'elle organise dans différentes églises du Timbré, du Drouet, en collaboration avec Monsieur Crabbé. Monsieur Crabbé est maire de Saint-Ange-Torçay, il est membre aussi de l'agglo des communes du Drouet. Et il s'intéresse beaucoup au patrimoine religieux, donc c'est ces deux personnes qui sont à l'initiative de cette manifestation. Alors en fait, Madame Estelle Vincent s'est inspirée d'une manifestation qui existe dans le département du Morbihan, qui n'est pas une nouvelle manifestation, elle est ancienne, elle a, je crois, une vingtaine d'années. Et ça consiste tout simplement à animer des chapelles, il y en a beaucoup dans cette région de Bretagne, bien évidemment, et pour une période d'environ 2 mois, la période d'été, présenter dans ces différentes chapelles des expositions d'art contemporain. Alors nous, évidemment, ce ne sont pas des chapelles, ce sont des églises rurales, de petites communes en général, et 10 églises ont été choisies par Madame Estelle Vincent, et ces 10 églises abriteront chacune une exposition d'un artiste différent. Et parmi ces 10 églises, eh bien, nous avons évidemment en visité 5 à l'occasion de notre promenade annuelle qui a lieu cette année, donc le 17 septembre.
Alors, une étape se fera à l'église de Tréhon, placée sous le patronage de Saint Blaise.
Alors, en effet, donc 5 églises ont été choisies sur les 10 qui abriteront une exposition, pour la simple raison qu'évidemment, nous avons constaté les années précédentes qu'il ne fallait pas inscrire un trop grand nombre d'églises à nos sorties, parce qu'évidemment, il y a un phénomène de saturation, et puis il faut prévoir des délais de route, il faut monter dans le car, en descente, etc. Donc ça demande du temps. Vous savez qu'on prévoit toujours aussi un déjeuner, puisque le déjeuner est prévu en milieu de journée, vers midi et demi, 1 heure à peu près. Donc tout ça fait que 5 églises me paraît le bon chiffre. Hein. Sachant qu'en fait, elles sont assez groupées. Parce que habituellement, nous avons un thème, c'est vrai, mais nous avons aussi une localisation géographique. Et on privilégie un peu cette idée de localisation géographique, de manière à ne pas trop se disperser. Parce que si on avait un thème avec des églises qui étaient à 25 km de distance les unes des autres, ça ne tiendrait pas dans la journée. Hein. Donc, en fait, on cumule 2 idées. Une idée de thème, c'est le thème de la conférence de l'année de l'Assemblée Générale, et aussi un thème un peu géographique. Donc là, c'est dans un mouchoir de poche. Toutes ces églises sont très proches les unes des autres. Donc, nnous pourrons visiter, normalement, 2 le matin et 3 l'après-midi. Et la première des églises que nous visiterons est précisément celle de Tréhon, Saint-Blaise, n'est-ce pas ? Et c'est une église qui a fait l'objet d'une fiche, une de nos fameuses 106 fiches, je crois, aujourd'hui. On doit être à 106 fiches descriptives d'église, toutes sur notre site, je le rappelle. Tréhon est une vaste église, c'est la plus vaste de notre périple. On commence par la plus grande. Et elle relève de la paroisse Saint-Étienne en Drouet. Alors, ce qu'il faut dire, évidemment, pour nos auditeurs qui connaissent un peu les paroisses du diocèse de Chartres, c'est que notre périple va, en fait, desservir des églises appartenant à 3 paroisses différentes. Saint-Étienne-en-Drouet, Sainte-Thérèse-en-Vallée-d'Avre et Saint-François-Laval. Donc on commence par une église de la paroisse Saint-Étienne-en-Drouais, Tréon en l'occurrence, qui, comme je le disais, est une église assez vaste. C'est la plus vaste de celles qu'on visitera. Et c'est une église qui a la caractéristique d'avoir des parties romanes encore assez importantes. C'est-à-dire que le chœur est entièrement d'époque romane. Et on retrouve en façade, à l'autre bout de l'église en quelque sorte, un portail qui est lui aussi tout à fait roman. Et puis c'est une église, comme beaucoup d'autres, qui a connu différentes phases de reconstruction, d'aménagement, de transformation et autres, si bien qu'elle présente des tranches de style assez différents. On a des baies vraisemblablement du XIIIe, on a des adjonctions de l'époque gothique flamboyante, renaissance. Vous voyez, donc chaque période a déposé un petit peu son témoignage.
D'accord, donc après Tréon, enfin peu importe l'ordre, oui, mais maintenant nous, si nous nous déplacions à Louvilliers-en-Drouais. Alors Louvilliers-en-Drouais, il existe aussi une fiche sur le site.
Alors c'est la dernière, c'est la dernière née de nos fiches. D'ailleurs, on l'a faite précisément parce que on y sera au mois de septembre. C'est une fiche, je ne sais même pas d'ailleurs si elle est encore sur le site, peut-être pas. Enfin, c'est tout neuf, tout récent.
Si, elle est sur
publiée,
le site.
Ça y est, elle y est maintenant, donc c'est tout neuf. Tout neuf. Donc, alors là, c'est une église, au contraire, extrêmement petite. Elle est encore entourée de son cimetière. Ce qu'il faut savoir, évidemment, mais ça, on le sait tous, que toutes les églises sont entourées de leur cimetière. Et ce n'est à partir du 19e, même parfois fin 18e, qu'on a commencé à transférer les cimetières dans des zones éloignées des villages pour des raisons d'hygiène, la plupart du temps, bien évidemment, puis aussi des raisons de grandeur et d'extension, parce que les cimetières devenaient très importants et c'était enclavé dans des villages, donc on pouvait difficilement trouver des places supplémentaires. Donc il y a eu progressivement un transfert de tous les cimetières, ou d'un grand nombre d'entre eux, dans des zones plus excentrées par rapport aux villages. Or là, nous avons encore le cimetière autour de l'église, qui a conservé ainsi son caractère, dirais-je, très, très ancien. C'est une église très modeste, mais qui est en fait très complète, c'est-à-dire qui a conservé une grande partie de son mobilier. C'est-à-dire, lorsqu'on entre dans cette église, on a un peu l'impression d'être encore au 18e siècle, on a l'impression d'être en 1780, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est entièrement boisée, il y a des lambris tout le long des murs, elle a conservé sa chaire, et en face sa chaire, comme le veut la tradition évidemment, le banc d'œuvre. Et puis il y a alors une particularité dans cette église, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup dans le diocèse, ce qu'on appelle l'arc triomphal. C'est-à-dire qu'en fait, le sanctuaire est séparé de la nef par une clôture en bois, et l'allée centrale est dominée par un grand, une porte en bois sculpté, très belle porte d'ailleurs, qui constitue comme un arc, ce qu'on appelle un arc triomphal. Alors il est d'époque Louis XV, donc de style rocaille, c'est un très bel objet, surmonté d'une croix, et beaucoup d'églises étaient ainsi, en fait, si vous voulez, séparées en deux. Hein. C'est-à-dire, il y a la nef d'un côté qui est pour les laïcs, pour les fidèles, et puis il y a le sanctuaire, proprement dit, qui est réservé plutôt aux clergés, aux desservants, aux chantres, aux servants d'hôtel, etc. Et ce parti de sanctuaire, eh bien, il y a une sorte de séparation, hein, qui montre que c'est un endroit un peu plus sacré. Alors souvent, il y a des stalles, souvent, il y a un émarchement, quoi, une sorte de séparation. Et quelquefois, alors, on accuse encore davantage la solennité du lieu en faisant cette espèce de grande porte en bois sculpté. On a un certain nombre, évidemment, qui subsistent, mais il n'y en a plus beaucoup. Et celui-là est très intéressant, puisque, je vous le dis, il est d'époque Louis XV et il a conservé toute son authenticité.
Merci pour Louvilliers. Donc maintenant, nous allons faire une pause musicale. Charles, vous nous proposez la sonate en si bémol majeur de Vivaldi. Thank you. Radio Grand Ciel avec l'association Église ouverte en Eure-et-Loire qui reçoit aujourd'hui Charles Jaubert, président de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. Avec Charles Jaubert, nous découvrons aujourd'hui le parcours de la visite promenade annuelle qui se déroulera cette année le 17 septembre dans le Timray-Drouet. L'œuvre que vous venez d'entendre est la sonate en si bémol majeur de Vivaldi. Et après cette pause musicale, nous revenons sur le circuit proposé. Nous avons parlé de deux églises, Tréon et Louvilliers en Drouet, deux sur les cinq qui seront visitées. Il nous reste maintenant Boissy en Drouet, Châtaincourt et Fontaine-lès-Ribous. Alors à Boissy en Drouet, Charles, qu'allez-vous nous proposer? Je pense que nous y rencontrerons peut-être le président, sûrement d'ailleurs, le président de l'association de sauvegarde qui lui-même avait assuré avec vous une émission Radio Grand Ciel l'année dernière.
Oui, il y a quelques mois, je pense que c'était en cours d'année 2018. Nous avions invité à notre micro ici M. Jean-Pierre Mériot, qui est le président de l'association buxoise, défense du patrimoine, etc., puisque Boissy-en-Drouet, ça vient d'un latin, du latin buxus, qui veut dire buis, tout bêtement. Hein. Tout le nom, effectivement, d'association buxoise. Et cette association est extrêmement active, extrêmement dynamique, avec un maire qui l'est aussi, qui s'intéresse énormément à son église. Et ce couple a fait merveille, si je puis dire, puisque c'est une église qui a été entièrement restaurée et de manière absolument exemplaire. Et nous aurons la chance de découvrir cette église. Il y a eu plusieurs planches de travaux effectuées, bien entendu, je crois trois. Une première tranche concernait l'extérieur et le portail. Alors, évidemment, cette église est assez vaste et elle possède un portail précisément fort intéressant qui date du début 16e, qui est donc Renaissance, et d'une très grande richesse. Donc, la restauration avait commencé précisément par ce portail exceptionnel. Ensuite, ils ont fait évidemment la restauration intérieure et du mobilier. Alors, cette assez vaste église abritera une exposition, comme toutes les autres. Il ne faut pas oublier effectivement que chacune de ces églises abritera une exposition d'art contemporain. Et là, en l'occurrence, c'est une exposition qui sera présentée par Muriel Baumgartner, qui est une artiste plasticienne et graveur, qui donc exposera ses œuvres dans cette église de Boissy-en-Drouet. Alors, je voulais appeler l'attention, parce que évidemment, pour chacune de ces églises, il y a un point, dirais-je, plus intéressant, plus particulier, plus exceptionnel. On a parlé de l'arc triomphal de l'église de Louvier-en-Drouet, parce que c'est un peu la particularité, et le trésor, en gros, de cette église. Là, bon, il y a deux trésors, à mon sens, tout à fait significatifs à Boissy-en-Drouet. Le premier, c'est le portail dont on a parlé, qui est exceptionnel, d'une très très grande richesse. Et puis, il y a une chaire absolument exceptionnelle dans une petite église de village, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Boissy-en-Drouet, actuellement, doit compter dans les 180 habitants à peine. Hein, c'est donc un tout petit village, une toute petite commune. Et il y a une chaire très importante, qui est mi-bois, mi-plâtre, avec la représentation de ce qu'on appelle le tétramorphe. Le tétramorphe, c'est-à-dire le symbole « les quatre évangélistes hein. ». Tétra étant quatre, évidemment, les quatre morphologies, les quatre visages, donc, du lion, de l'aigle, de l'homme et du taureau. Donc, on a cette espèce de tétramorphe disposé de part et d'autre de cette chaire, et c'est assez exceptionnel. Donc, c'est une chaire d'une très grande qualité que nous pourrons découvrir à l'occasion de cette visite de l'église de Boissy-en-Drouet.
Alors ensuite Châtaincourt, hein, sous le vocable de
normalement, Saint-Martin. Normalement, on devrait en effet visiter Châtaincourt. Alors l'ordre, si vous voulez, des églises n'est pas encore définitivement fixé. Normalement, ça devrait être celui-là parce qu'il paraît relativement cohérent. Alors, entre-temps, je le dis parce que, bon, c'est un peu trivial peut-être, mais enfin, c'est utile à savoir, on déjeunera, hein, comme d'habitude, et il est prévu que nous déjeunions dans la salle des fêtes de Louvilliers-en-Drouet, qui nous est prêtée très généreusement par la commune, donc, à titre gratuit, nous pourrons donc occuper cette salle pour le déjeuner. Voilà, donc on ira ensuite à Boissy.
Un déjeuner qui, rappelons-le, est un déjeuner partagé. Chacun amène un plat qu'on a tout plaisir à déguster tous ensemble.
Hein. Comme d'habitude.
Voilà, comme d'habitude.
Selon les normes habituelles, on ne change rien On ne change pas quand on gagne, on ne change pas, c'est bien connu. Voilà, bien. Donc, ça veut dire qu'ensuite, après la visite de Boissy-Androuet, qui devrait se faire en début d'après-midi, vers 14h30, nous irons à Châtaincourt. Alors là encore, c'est une église qui, comme à Louvilliers, est entourée de son cimetière.
L'affiche église de Châtaincourt fait référence à un mobilier magnifique, en particulier. Effet. Donc tout à l'heure, vous parliez des points à noter.
Alors le
peut-être
point
celui-là,
à signaler,
celui-là
la pépite, si je puis la dire, pépite. Le trésor de cette église de Châtaincourt, pour le coup, là, c'est le rétable. Et d'accord. Même les trois, parce qu'il y a trois rétables, en fait. Hein. Donc il y a un rétable principal, le grand rétable du fond du chœur, et deux rétables latéraux de part et d'autre du chœur. Alors ces rétables sont tous en bois, polychromés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont gardé leur polychromie d'origine, c'est-à-dire des couleurs très vives, très saillantes, très gaies. Alors, il y a du bleu, du vert, du rose, en fait, toutes les couleurs, si vous voulez, un petit peu comme à l'église d'Ormois. Alors, c'est très gai, ces rétables colorés. Alors, il y a des espèces de grandes cornes d'abondance sur le retable principal, desquelles s'échappent des fruits, des fleurs. C'est très fleuri. C'est très rocaille, c'est très Louis XV. C'est un côté parfois un peu mondain, si vous voulez, mais c'est très agréable. Hein. Alors, il y a dans cette église de Châtaincourt un autel latéral, l'autel qui se trouve vers le nord, qui est consacré à Saint Gorgon. Alors, Saint Gorgon, on en a parlé, parce qu'il est honoré dans une église Fontaine-l'Aiguillon, je crois, qu'on avait visitée il y a quelques années, où il y a un pèlerinage à Saint Gorgon. Saint Gorgon est un militaire romain qui a renoncé, bien entendu, à servir l'armée romaine parce qu'on l'a obligé à adorer les idoles. Ça, c'est classique, hein, c'est vraiment le schéma habituel. On retrouve ça avec Saint Maurice, Saint Georges, etc. C'est classique, hein. Et alors, il a renoncé effectivement à cet état militaire pour évidemment conserver sa foi. Alors, Saint Goron est représenté à gauche, donc sur l'autel qui lui a consacré. On le voit, il piétine avec ses pieds, c'est un pléonasme d'ailleurs, il piétine en fait un casque militaire. Alors, on voit sous son pied droit une espèce de casque ferré qui est un casque militaire. Et c'est le symbole, en quelque sorte, effectivement, du refus de l'armée romaine et de son rejet. Et il a été martyrisé, bien entendu. Et il y a un pèlerinage, vous vous souvenez certainement, à la Fontaine de l'Aiguillon, où on passe sous la chasse de Gorgon. Ça consiste à passer en dessous, et puis on passe de l'autre côté, voilà. Et on avait visité ça quand on avait visité Chouines, Courville-sur-Eure, etc. C'est cette année-là qu'on avait visité cette église. Voilà en ce qui concerne donc Châtaincourt.
Et à Châtaincourt, il y aura une exposition aussi.
Alors à Châtaincourt, il y a une exposition, comme partout, c'est-à-dire que, voilà, je dois préciser, vous avez raison de mettre le point là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les cinq églises qu'on visitera, il y a quatre églises qui sont inscrites dans ce fameux réseau d'expositions d'art contemporain. 4 sur 5. La seule église où il n'y a pas d'exposition, c'est Louvilliers-Androuet, hein. Mais à Châtaincourt, effectivement, il y aura une exposition. C'est l'exposition de Johara Escourou, qui est artiste-peintre. Voilà en ce qui concerne donc Châtaincourt.
Et donc les expositions reprennent un peu un thème de...
Pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'en fait, alors, ça aussi c'est important à préciser, ce sont des expositions d'art contemporain. Mais ce ne sont pas des expositions d'art sacré ou d'art religieux. Oui. C'est des expositions totalement profanes. Simplement, Madame Estelle Vincent a souhaité que l'artiste s'inspire du lieu où il expose. Voilà, donc chacun viendra voir l'église, s'imprégnera un petit peu de cette église. Ils ont déjà fait un tour, d'ailleurs, chacun d'entre eux. Et normalement, ils vont créer des œuvres pour l'église dans l'inspiration que cette église leur a apportée.
D'accord.
C'est donc prévu
d'accord.
Comme ça. Donc là, nous aurons effectivement une exposition d'un artiste peintre dans cette église de Châtaincourt.
Alors, il nous reste une
Alors, la dernière visite concernera l'église de Fontaine-Lériboux.
Dont le patron est Saint-Aignan, bien connu des Chartreins.
Voilà, on pense que c'est celui-là, parce qu'on n'est pas très sûr.
Pense.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Saint-Aignan au martyrologe romain, il y en a au moins 3. Alors, on ne connaît pas trop bien la vie de chacun. D'ailleurs, on sait qu'il y a un Saint-Aignan à Chartres. On pense que compte tenu du fait qu'on est dans le diocèse de Chartres, il s'agit bien de celui-là. Mais comme il y en a plusieurs, on n'est pas toujours capable de le discerner avec précision. Enfin, une chose est certaine, c'est un Saint-Évêque, puisque ce Saint-Aignan est représenté, une très belle statue en bois, dans l'église de Fontaine-Lériboux. Il a la mitre Il a la crosse étant un évêque, donc on peut imaginer que c'est bien le même que celui d'Orléans aussi d'ailleurs, puisque à Orléans, il était d'Orléans, il y a une très belle collégiale sous le vocable de Saint-Aignan également, c'est le même normalement. Voilà, donc dans cette église de Fontaine-lès-Ribous, il y aura en quelque sorte une double exposition, c'est-à-dire qu'il y a deux artistes qui vont exposer, Carlos Lopez, qui est un dessinateur-graveur, et Pierre Amourette, alors, qui est un céramiste. Il fait de la sculpture sur céramique, donc ce sont des choses relativement originales qui nous seront, je pense, présentées dans cette église. Alors, puisqu'on parle des pépites et des trésors de chacune d'entre elles, quelle est la pépite de Fontaine-lès-Ribous ? Eh bien, en fait, il y en a deux, comme souvent. Là, nous avons d'abord un vitrail. Alors, le vitrail qui se trouve dans la chapelle latérale nord, à gauche, une verrière du XVIe qui représente un arbre de Jessé et bon qui a été très restauré, qui a été assez abîmé, mais enfin qui est quasiment complète et qu'on a redécouvert il n'y a pas tellement longtemps, si vous voulez. Donc elle a bénéficié d'une belle restauration. Alors tout le monde sait ce que c'est que l'arbre de Jessé, bien évidemment. On en a quand même un certain nombre dans le diocèse de Chartres. Ou ailleurs, un petit peu pas très loin du diocèse de Chartres, à Saint-Georges-Motel, par exemple. Alors, Saint-Georges-Motel, c'est le département de l'Eure, c'est à la limite, c'est vraiment à la frontière de l'Eure et de l'Eure-et-Loire. Il y a un magnifique arbre de Jessé qui date du XVIe. Il y en a un autre à l'extrême nord du département, à Ménil-Simon, qui a un très bel arbre de Jessé également du XVIe. En général, ils sont du début XVIe. Et puis on a Suite Dreux. Alors Suite Dreux, lui, il est du 19e, à Saint-Pierre, on a un arbre de Jessé, qui n'est ni plus ni moins que la copie conforme de celui de Saint-Georges-Motel. Bon, voilà. Alors l'artiste Eugène Moulin, qui a fait celui de Dreux, eh bien, s'est inspiré tout simplement de Saint-Georges, qui était à 4 km de là, il l'a reproduit presque. Bon, il y a des variantes quand même, enfin, il est très très proche. Alors celui de Fontaine-lès-Ribous, pour en revenir à Fontaine-lès-Ribous, il est un petit peu différent quand même. Ce qui est intéressant et ce qu'on n'a pas dans les autres, c'est que chacun des rois qui figurent dans cet arbre, parce qu'en fait on sait ce que c'est qu'un arbre de Jessé, c'est avant tout un arbre généalogique, hein. Alors les racines sont plantées fortement dans les flancs de Jessé qui dort, et des flancs de Jessé s'échappe un arbre. Voilà. Et il y a des branches, et puis chaque branche a des fleurs, et de ces fleurs éclosent des rois. C'est les rois, bien entendu, ils sont les ancêtres de David. Et ensuite, du Christ. Alors, on voit David, en général, au milieu avec sa harpe, on le reconnaît très facilement. Il y a Salomon aussi, normalement. Et en général, ils n'ont pas des tribus particuliers, donc on ne peut pas les repérer, les identifier. Alors, là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à Fontaine-lès-Ribous, ils ont tenu à mettre le nom de chacun d'entre eux. Il y a un petit phylactère avec l'étiquette qui indique quel est le fameux roi. Bon, comme ça, on peut l'identifier assez facilement. Et en haut, bien entendu, la fleur des fleurs, là, le sommital, c'est la Vierge, avec l'enfant Jésus, comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est tout à fait intéressant, et ça fait partie des trésors de cette église. Il y a un autre trésor, c'est le retable, qui est remarquable, d'une excellente finesse d'exécution, d'une très grande qualité au niveau de la sculpture. Alors, il est un peu différent de celui de Châtincourt. Châtincourt, lui, il est polychrome. Il y a toutes les couleurs, c'est peint au naturel, comme on disait au XVIIIe, c'est-à-dire comme le veut la nature, avec des fleurs roses, des feuilles vertes, etc. Bon, là, il est en faux marbre, c'est-à-dire qu'il est vert et rouge, ça imite le marbre, marbre de Campan, marbre du Languedoc, etc. Et avec un très 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 beau tabernacle qui est, lui, vert et or, donc de très très belles couleurs, c'est vraiment un ensemble absolument remarquable. Et sa qualité est telle qu'on peut imaginer que ceux qui l'ont réalisé sont peut-être les artisans qui ont travaillé pour Madame de Pompadour. Parce qu'il faut dire au passage qu'effectivement, nous sommes dans le fief de Madame de Pompadour qui avait un énorme château à Crécy-Couvet, église qu'on a visitée il y a quelques années avec un mobilier tout à fait exceptionnel. Alors, à Boissy-en-Drouais, Madame de Pompadour avait des terres. Donc, il est possible qu'elle ait aussi financé un certain nombre de travaux dans l'église. Et à Fontaine-lès-Ribous, qui est à 4 km, hein, de Crécy, c'est tout près, on peut imaginer que ce sont les mêmes artistes qui ont travaillé là, parce que c'est une qualité d'exécution vraiment remarquable. C'est un art de ville, c'est pas un art de village, hein, véritablement. Et c'est là qu'on devrait normalement chanter les vêpres, puisque vous savez qu'on termine toujours nos journées dans l'action de grâce en chantant les vêpres. Or là, je pense que ça devrait pouvoir se réaliser. il faut évidemment savoir si l'exposition ne prend pas trop de place. Hein. Alors, Madame Estelle Vincent avait dit que les expositions étaient discrètes, qu'elles avaient lieu toujours dans la nef ou dans un bas-côté, mais jamais dans le chœur lui-même, parce que toutes ces églises, il ne faut pas l'oublier, sont toujours ouvertes au culte, hein, évidemment, et que s'il n'y a pas énormément de messes, il y a quand même des cérémonies. Il y a des mariages, il y a des enterrements et des baptêmes, bien entendu. Hein. On est donc sur 3 paroisses, il y a 3 prêtres qui desservent, comme ils le peuvent, ces lieux de culte. Donc, nous chanterons les vêpres normalement dans cette ravissante église de Fontenay-Ribous, qui en plus a un milieu très agreste, très rustique, avec son cactoire, les chers cactoires, n'est-ce pas, qu'on trouve dans notre région. Donc, c'est une église qui a énormément de charme.
Bien, merci Charles pour tous ces détails et pour ce parcours de notre...
Et j'ai donné envie de venir, hein, c'est ça aussi. Oui. J'ai essayé quand même au maximum Absolument. De donner envie à ceux qui vont nous écouteront de venir nous rejoindre pour cette visite du 17 septembre.
Oui, puisque maintenant nous sommes arrivés à la fin de l'émission, donc il faut réserver la date du 17 septembre pour nous rejoindre, Association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Merci de votre attention. Merci à Simon qui a assuré la technique. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. D'ici là, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les sites internet de Radio Grand Ciel d'une part, de notre site Église Ouverte en Eure-et-Loire d'autre part. Bonne journée sur les ondes de Radio Grand Ciel. Au revoir.
Merci à vous. Charles. Au revoir.